I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis que j'ai des enfants, je suis confronté à tout un tas d'interrogations auxquelles je m'étais pas vraiment préparé. Par exemple, comment conserver son calme et sa maîtrise de soi face à une petite fille qui se roule sur le sol du supermarché parce que vous avez refusé de lui acheter des chips? Quelle antique malédiction pousse ces humains miniatures à gribouiller au feutre des signes cabalistiques sur l'intégralité de votre mobilier et de vos murs? Quand on y réfléchit deux minutes, l'âne trop est-il vraiment trop rigolo? Ou encore, quelle politique adopter face à ses amis certes bien intentionnés qui veulent prendre en photo mes mots mais potentiellement poster les dites photos sur les réseaux sociaux? Sur ce point-là au moins, la réponse est assez simple, puisque quitte à passer pour un épouvantable relou, je refuse systématiquement de voir mes enfants sur le net et je ne poste pas de photos d'eux. Mais il me suffit de jeter un œil à mon fil Facebook pour voir que tout le monde n'a pas forcément choisi cette option radicale, quitte à carrément pousser les curseurs au max et publier sur une base quotidienne les exploits en images de Junior. Or tout ça ne va pas sans risque. Alors dans un élan de pédagogie et de prosélytisme éhonté, nous allons tenter de vous convaincre d'y réfléchir à deux fois avant d'imposer à vos followers la vue de votre petit dernier sur le pot. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Avant toute chose, comme il va être beaucoup question de droit aujourd'hui, il paraissait nécessaire de faire une petite remise à niveau juridique. J'ai donc très logiquement demandé à ma camarade Clara Benyamin, avocate et surtout patronne du podcast Besoin de rien, envie de droit chez Binge Audio, de venir éclairer mes maigres connaissances en commençant par cette question essentielle. C'est quoi le droit à l'image ?
Alors, le droit à l'image, c'est une des parties de ce qu'on appelle les droits de la personnalité. Et donc, en fait, chaque personne dispose sur elle-même et sur parfois d'autres personnes, mais on y vient juste après, d'une série de droits qui sont attachés à sa personnalité. Et donc, c'est le droit à l'image, le droit à sa voix, des choses un peu comme ça. Donc tu vois, j'ai une sorte de droit à l'image, là, quand je parle dans le micro. D'accord. Alors qu'on voit pas ma tête. Voilà, donc c'est ça, le droit à l'image. C'est un droit dont tu disposes sur les attributs de ta personnalité. Ce droit à l'image, tu l'accordes, tu le cèdes pour certaines utilisations. Par exemple, tu te fais interviewer dans la rue pour un micro-trottoir. Normalement, on te fait signer un petit papier où tu dis que... Et tu l'exerces pour toi, mais tu l'exerces aussi pour les gens sur lesquels tu as une autorité. Donc, notamment dans le cas d'une tutelle, d'une curatelle, et si jamais ce sont tes enfants. Et donc, en fait, pour l'enfant, son gardien légal exerce pour lui ce droit-là. Il en exerce d'autres, mais notamment son droit à l'image. Donc, du coup, c'est ce qui fait que si tes enfants se font filmer à l'école et qu'ils ont l'intention d'en faire une petite vidéo mignonne pour la mettre je sais pas trop où, il faudra que le parent signe un petit formulaire d'autorisation.
Si on imagine une situation très concrète, un enfant devient un adulte en acquérant sa majorité à 18 ans, récupère donc son droit à l'image et se rend compte que finalement il n'est pas très à l'aise avec les photos postées...
Avec le flot de photos postées
par ses parents, des photos de lui gamin dans tout un tas de situations, certes très mignonnes, mais pas forcément très glope quand on a 18 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire légalement pour reprendre un peu le contrôle de tout ça ?
Alors, déjà, il le reprend du fait de sa majorité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es majeur, tu peux te mettre à exercer ce droit-là toi-même. Et toute une série d'autres droits, mais enfin vaste, majeur ou émancipé. Donc voilà, vaste sujet, très très long. Mais donc voilà, tu récupères, tu es à nouveau la personne qui exerce ces droits-là. Et en fait, le fait que tes parents, quand t'étais môme, aient posté des photos de toi en Zorro au carnaval, t'as l'air effectivement un peu bête, mais ça n'a rien d'illégal.
Oui.
Tu vas pouvoir... Alors, sous réserve que les faits ne soient pas prescrits, puisque le temps court à partir du moment où la photo est publiée, et il y a ce qu'on appelle des interruptions de prescription jusqu'à la majorité dans quelques hypothèses qui sont vraiment graves, les hypothèses de violences sexuelles et de choses comme ça, mais ça couvre pas les photos qui ne sont pas vraiment graves, on y revient juste après. On n'est pas sûr de la pédopornographie et des choses comme ça. Mais si en gros, quand t'avais 3 ans, tes parents ont publié des photos de toi en Zorro et que t'as l'air un peu con, déjà ça n'a rien d'illégal de te faire avoir l'air un peu bête. Et en plus, c'est prescrit depuis bien longtemps. Les hypothèses où tu vas pouvoir agir éventuellement contre tes parents, si t'as envie d'attaquer tes parents en justice, il va falloir déjà prouver qu'il y a un préjudice. Donc le préjudice, ça peut être une atteinte à ton honneur, à ta considération, à ta vie privée. Et il faut que les faits ne soient pas prescrits. Et évidemment, les hypothèses vraiment extrêmement graves auxquelles on peut penser, c'est les cas de tes parents qui ont mis à disposition des photos de toi dans le bain pour des réseaux de pédopornographie et des choses comme ça. Et où là, effectivement, les faits ne sont pas prescrits et tu peux attaquer. Mais en étant adulte, juste être hyper embarrassé par le fait que tes parents aient posté des photos de toi chez mamie le dimanche, il n'y a pas grand-chose à faire.
Est-ce qu'on peut demander la suppression de ces images? Est-ce qu'il y a des moyens de il y a des recours qui existent auprès des plateformes là directement?
Alors ça dépend déjà qui est-ce qui a posté la photo. C'est-à-dire que si c'est tes parents, en vrai bof.
Ouais.
Voilà. Par contre, si c'est toi qui, quand t'avais 16 ans, a posté beaucoup trop de photos de toi passablement éméchées en soirée, il y a un mécanisme qui est prévu dans la loi République numérique et dans le RGPD, qui est une sorte de droit à l'oubli pour les mineurs. Après, le mécanisme existe, mais il est encore un peu flou et un peu compliqué à appliquer. Ouais. Mais il existe, en tout cas.
Quel droit de regard sur nos données on a, de manière générale, quand on devient adulte?
En fait, c'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a des outils pour pouvoir gérer, il y a des outils légaux qui te permettent toi d'aller dire ça oui, ça non, ça en vire, ça machin, mais c'est prévu donc par la loi à double titre, le règlement européen pour la protection des données personnelles, donc le règlement général, le RGPD, et cette fameuse loi République numérique, dite loi Lemaire. Mais actuellement, voilà, on a des outils qui te permettent d'aller contrôler tout ça quand toi tu deviens majeur, mais actuellement ça marche encore pas hyper bien, et clairement ces outils ont été pensés pour de bonnes raisons, à savoir on est aujourd'hui sur des époques où on a Facebook à 15 ans et où potentiellement on va en faire un usage qui manque un peu de recul et de maturité, et on veut que les gens aient des moyens de contrôler un peu tout ça quand ils deviennent majeurs, mais pour l'instant l'application est encore un peu floue.
Ok, une fois ces bases posées, entrons plus directement dans le cœur du sujet, aussi anxiogène soit-il, grâce à Justine Atlan. Elle est directrice générale de l'association e-enfance qui milite pour sensibiliser parents et enfants aux bons usages du numérique. J'ai commencé par lui demander à quel risque on s'exposait en tant que parents en postant sans précaution des photos de nos enfants en ligne.
Alors d'abord, je pense qu'on ne s'expose pas à des risques soi-même, mais qu'on expose ses enfants à des risques, en fait, qui sont de deux natures assez différentes, mais auxquelles on ne pense pas nécessairement. Le premier auquel on va peut-être plus penser aujourd'hui, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, c'est de livrer en fait des images de ces enfants qui sont relativement anodines, Dieu merci, quand on est parent, mais qui, dans un esprit plus malsain de prédateurs sexuels ou de pédophiles, peut malheureusement se retrouver sur des sites, être partagé et donner lieu à des commentaires, des utilisations, des comportements de pédophiles sur ces images de ces enfants.
C'est vrai qu'il y a eu plusieurs affaires dans ce cas, notamment un site russe, je crois, qui avait été repéré, où il y avait des milliers de photos qui avaient été captées comme ça.
Voilà, et ça, il faut savoir que c'est très banal, en fait. Il y a souvent, comme ces types de profils sont à la recherche, en fait, permanence de nouveaux contenus à partager, à échanger, parce que c'est comme ça que ça se passe entre eux. Pour avoir eux-mêmes des nouveaux contenus, il faut qu'ils en donnent aussi, qu'ils participent à une espèce de foire, entre guillemets, aux images et aux photos. Ils vont aller chercher des photos, même effectivement parfois, qui sont encore une fois très banales et anodines, mais qui pour eux vont être suffisants. Donc ça, c'est vrai que souvent les parents n'imaginent pas ça, c'est normal, mais il faut en avoir conscience, parce que je pense qu'aucun parent n'a envie d'imaginer tout simplement quelqu'un se masturber, parce qu'il faut être clair, sur l'image de son propre enfant. Oui. Voilà. Quand on dit ça aux parents, en général, ils comprennent
un effet de sidération assez fort.
Voilà, et que donc il vaut mieux être prudent. Donc ça, c'est le premier risque, je sais, qui fait un peu peur, mais qui existe et sur lequel il faut être vigilant. Le second, qui est en fait à plus long terme, qui est plutôt d'un point de vue éducatif, c'est que si on habitue son enfant en fait à à le mettre en scène, en ligne, en fait, en permanence, dès son plus jeune âge, parfois même quand il est encore dans le ventre de sa maman, eh bien, à terme, ça va être compliqué ensuite quand il va arriver à un âge d'usage personnel, autonome, de pré-ado ou d'ado, d'aller commencer à lui apprendre qu'à l'inverse, effectivement, il faut faire attention à ce qu'on met en ligne, qu'il faut faire attention aux images qu'on divulgue, qu'on échange, qu'on n'a pas la main dessus, qu'effectivement, une fois qu'on a posté un contenu sur Internet, eh bien, il a sa vie propre et qu'on ne pourra plus jamais, en fait, contrôler, maîtriser, et que donc, on va se retrouver dans une espèce de contradiction éducative où on va être celui, en fait, qui aura commencé à créer une irréputation à son propre enfant en ligne, et dont il va hériter, finalement, à l'âge de l'adolescence, et sur lequel, après, ça va être compliqué de lui mettre, effectivement, un cadre, et puis qui, parfois, pour un adolescent, est assez blessant, en fait, parce qu'il se retrouve à l'âge de l'adolescence où il a envie de contrôler son image, de choisir comment il veut se montrer auprès de ses pairs, parce que c'est comme ça qu'il va grandir et construire son identité, et là, il se retrouve avec un héritage de photos... de lui avec les oreilles décollées, de lui avec un appareil dentaire, de lui un peu ridicule sur une plage avec un maillot de bain d'il y a 10 ans qui n'était pas à la mode, enfin que sais-je. En tout cas, des images que les ados n'ont pas envie d'assumer, qu'ils ne maîtrisent pas et qui nuisent complètement à leur réputation et à leur popularité, puisque c'est l'objectif suprême quand on est ado pour réussir son adolescence. Donc voilà, tout ça fait que finalement, on va embarquer son enfant dans une vie numérique qu'il n'aura pas contrôlée, avec des injonctions éducatives un peu contradictoires et qu'on va se retrouver un peu coincé là-dedans. Et lui-même, du coup, avec en fait une difficulté de se repérer pour construire lui-même tout seul son identité numérique.
Oui, il y a quelque part une double problématique, si je comprends bien. D'un côté, donc, cette irréputation et le fait d'avoir, on va dire, entamé la vie numérique d'un enfant sans avoir trop pris conscience de ce qu'on allait montrer de lui et qu'il allait devoir, lui, après, être emballé dans le reste de sa vie numérique. Mais il y a aussi, vous avez commencé à le dire, des mauvaises habitudes qui peuvent être prises, un mauvais pli qui peut démarrer, mais souvent très très jeune.
C'est vrai qu'effectivement, si on habitue son enfant à le photographier tout le temps, à poster en permanence des images de lui, des vidéos de lui dont on est très fier parce qu'il arrive à faire plein de choses formidables, etc., mais c'est vrai qu'on va l'habituer à ça, on va l'habituer à être beaucoup dans un espèce de narcissisme en fait assez exacerbé, à un contrôle de l'image, on va en faire finalement de lui, dès le plus jeune âge, un super communicant, alors qu'en fait il ne s'est pas encore construit, donc on va le piéger dans cette espèce d'hyper-narcissisme que les réseaux sociaux entretiennent grandement, donc il va grandir comme ça, et il va se retrouver en fait très fragilisé par ça, parce qu'ensuite, encore une fois, à l'âge de l'adolescence, on devient beaucoup plus dépendant de ça. Quand on est enfant, finalement, le regard de nos parents suffit à nous faire grandir et à nous donner une bonne estime de nous. Quand on devient ado, c'est ça qui est compliqué, pour les parents aussi d'ailleurs, c'est que le regard des parents diminue complètement dans l'efficacité et le poids que ça a. En revanche, c'est tous ceux des autres à l'extérieur, pères du même âge, qui vont avoir beaucoup plus de poids. Et là, du coup, on devient très dépendant et fragile de ça. Et on voit des jeunes, des enfants qui ont été trop habitués, effectivement, à cette surexposition et qui après, en réalité, contrairement à ce que les parents croient, ils ne les renforcent pas, ils les fragilisent énormément. Mmh. Et donc, à l'adolescence, ils peuvent vraiment exploser en vol, se retrouver psychologiquement très mal, en fait, quand les retours sont plus aussi positifs, négatifs. On sait comment ça peut fonctionner entre ados. Donc ça, c'est vrai que c'est encore une fois, ce n'est pas une mauvaise intention des parents, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils fragilisent le processus interne de l'enfant, de construire son identité de façon, au contraire, très solide, ne dépendant pas des regards des autres, avec une bonne estime de lui, et qui fait qu'effectivement l'impact va être en tout cas moindre à certains moments quand le regard est négatif, etc. Et tout. Donc ça, c'est vrai que les parents n'ont pas conscience et qu'encore une fois, ça peut avoir des effets dévastateurs. Et parallèlement, comme je l'ai dit au début, il y a ce côté éducation qui va être compliqué du coup à...
Oui.
Voilà, à prendre en main.
D'imposer un usage raisonné.
C'est dur à un moment de dire, son enfant va lui dire, t'es gentil, c'est toi qui me mets en ligne depuis que j'ai 3 ans, j'hérite d'un passif alors que je suis même pas inscrit sur les réseaux sociaux. Et donc maintenant, commence déjà par toi, faire attention à ce que tu mets de moi en ligne plutôt que d'aller effectivement me dire que je dois pas faire ci ou faire ça. Finalement, on l'a très mal habitué et on n'est pas très légitime à lui fixer un cadre quand soi-même on l'a pas du tout respecté ou tenu. Bon, en plus il y a cette idée de droit à l'image qui aujourd'hui est finalement qu'on n'apprenait pas tellement à nos enfants quand il n'y avait pas le numérique. Aujourd'hui, c'est assez fondamental de connaître son droit à l'image. C'est un vrai droit qu'on peut imposer aux autres, dont on est effectivement le détenteur. C'est vrai que les enfants, en réalité, l'ont tout de suite quand ils naissent, mais ils le partagent avec leurs parents, avec leurs tuteurs, et puis ensuite, à la majorité, ils vont l'utiliser tout seul. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que le parent, dans l'éducation, mette en scène. C'est-à-dire c'est à lui d'apprendre à son enfant qu'il a ce droit à l'image, qu'ils vont le partager, mais quand on le partage, on le partage vraiment. C'est-à-dire qu'on peut demander à son enfant assez tôt, voilà, j'ai pris cette photo de toi, est-ce que tu es d'accord? Et puis ensuite, je vais la publier, est-ce qu'elle te plaît, est-ce que tu ne te plaît pas, est-ce que tu es OK? Évidemment que l'enfant, assez tôt, va dire oui à tout. Mais oui. globalement, ça permet de lui apprendre voilà, cet apprentissage-là et puis qu'il comprenne que c'est un droit qu'il a et qu'il va pouvoir utiliser, y compris avec d'autres plus tard. Et c'est très important dans la vie numérique et vis-à-vis des plateformes et des réseaux sociaux, puisque ça fait partie des raisons pour lesquelles on peut aller demander à ce qu'un contenu soit effectivement retiré ou bloqué quand son droit à l'image n'est pas respecté en termes d'autorisation à la publication notamment.
Au sein d'e-enfance, vous faites de la prévention depuis de nombreuses années sur tous ces sujets. Qu'est-ce que vous recommandez ? Est-ce qu'il y a quelques petits trucs et astuces comme ça quand on est parent et qu'on a malgré tout envie de faire exister un peu nos enfants sur les réseaux ? Est-ce qu'il y a des bons conseils à appliquer au-delà, on va dire, de l'aspect oui. éducatif qu'on vient d'aborder ensemble ?
C'est vrai que nous, on serait plutôt à essayer de restreindre au maximum oui. l'exposition des enfants, encore une fois, parce que c'est pas... En réalité, on leur offre pas grand-chose. En tout cas, on les prive pas de grand-chose si on les surexpose pas. Donc, c'est plutôt l'idée de cette surexposition, c'est-à-dire essayer de se demander, peut-être de réserver un certain nombre de contenus à des événements, des anniversaires, des fêtes de famille, des choses comme ça, et puis pas effectivement se restreindre en se disant je vais en faire un par semaine, ou enfin essayer de se caler sur un peu des règles ou un rythme qu'on va s'obliger à respecter, ce qui fait que du coup on va choisir des photos, enfin, voilà, ça va obliger à moduler un peu et pas être dans l'immédiateté permanente. Donc ça, c'est, je pense que c'est important de se fixer un cadre pour ces publications. Idéalement, évidemment, de le faire dans un cadre restreint, c'est-à-dire d'avoir vraiment sur des profils ou des comptes qui sont réservés finalement à plutôt la famille et les amis proches, voilà, dans un cercle finalement assez restreint.
Voir des groupes de messagerie privée.
Voilà, voir des groupes, idéalement, ça c'est encore mieux, des groupes de messagerie ou des groupes effectivement sur des réseaux privés. Oui. Ça, c'est quand même ce qu'on recommande parce qu'encore une fois, c'est des contenus de mineurs. Voilà, donc il faut essayer autant que faire se peut de sensibiliser quand même effectivement, y compris ce groupe, qu'on n'a pas envie que ces photos-là soient partagées par ailleurs, hein, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et ça, je pense que c'est effectivement important. Et puis, quand ils vont grandir, c'est-à-dire assez rapidement, quand ça sort quand même du tout petit, hein, quand ça devient un enfant de 6-7 ans, essayer quand même de pas trop le rendre reconnaissable en termes de, voilà, de visage, essayer plutôt de mettre des photos de profil, de dos, avec un contre-jour, enfin voilà, des choses qui permettent de pas trop le reconnaître dans la vie réelle pour différentes raisons. Et de pas, voilà, le photographier dans des cadres aussi trop identifiants, c'est-à-dire pas lui devant l'école, ou la photo de la piscine où il va toutes les semaines, ou voilà, des lieux qui vont ensuite être trop créer en fait une identité numérique déjà, avec plein de données personnelles que si on recoupe, on permet de le retrouver. Donc c'est ces petits points de vigilance qu'il faut effectivement avoir, toujours pareil, être conscient quand on fait cet acte de publication, qu'on est en train de le faire, et se donner un peu quelques règles. Voilà.
Ça fait plusieurs années que ce sujet il est sur la table, parce que maintenant l'usage des réseaux sociaux, on va dire, c'est vraiment globalisé et traverse un peu toutes les couches de la population. Cette interrogation, donc, elle n'est pas totalement nouvelle. Malgré tout, ce que vous assistez de votre côté à une évolution de la perception du public de ces thématiques ?
Alors, oui et non. Pour l'instant, on est encore dans la démultiplication des usages, donc on est encore quand même dans cette course en avant de présent de plus en plus sur plus en plus de réseaux, avec plus en plus d'outils différents et dans lesquels les enfants sont quand même globalement embarqués. Donc, du coup, cette démultiplication de contenu fait qu'il y a une prise de conscience, en tout cas pour les médias, pour les acteurs politiques, qu'il y a une surexposition des enfants et surexposition en termes de diffusion. Donc, mais au niveau du grand public, je pense qu'il y a encore beaucoup d'usages. Maintenant, c'est vrai que ça fait 10-15 ans qu'on est dans ces usages avec les réseaux sociaux. Donc, on va commencer à avoir des grands ados de l'époque qui vont devenir des jeunes parents. Oui. Et eux, en revanche, effectivement, on sent bien qu'ils ont un vrai sens, effectivement, des dérives, en fait, des usages, de la surexposition, un certain nombre de choses. Et on sent que ça va être des parents beaucoup plus responsables à ce niveau-là. D'abord parce qu'ils ont eux-mêmes pris des risques, ils ont eux-mêmes vu des... Et que là-dessus, ils vont être conscients de protéger un peu leur enfant, voilà, qui n'est pas un objet valorisant, mais qui doit rester à sa place. On voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur les enfants, sur les plateformes de vidéos comme YouTube. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on assiste à un modèle de l'enfance dans l'ère numérique qui finalement nous plaît de moins en moins, qu'on les a embarqués là-dedans comme ça avec nous, sans trop faire attention, parce qu'on a tous découvert en même temps, toutes les générations confondues, tous ces usages. Donc on n'a pas du tout eu de temps de réflexion et d'appropriation pour ensuite savoir ce qu'on transmet ou pas aux enfants. On a tous découvert en même temps. Là, on sent que la curiosité qu'il y a eu ces premières années de découverte commence à se tarir un peu. On a fait un peu le tour des usages et maintenant on commence à vouloir les cadrer, les limiter. Donc la prise de conscience, elle émerge. En plus, c'est vrai qu'au niveau politique, il commence à y avoir des lois qui affirme un certain nombre de droits pour les mineurs. Il y a eu le RGPD sur, effectivement, le droit de collecte des données personnelles avec l'accord des parents en dessous d'un certain âge. Pas, voilà. Donc, l'enfant commence à s'intégrer, effectivement, oui, dans une régulation plus large du numérique et donc à prendre conscience qu'il faut aussi, dans cette sphère-là, respecter, effectivement, ses droits et que les parents ont un rôle à jouer, ce qui ne... n'exemple pas du tout les plateformes qui ont une énorme responsabilité, mais voilà, qu'il faut le faire ensemble, effectivement.
Il y a une difficulté, j'imagine, supplémentaire dans tout ça, vous parliez des plateformes, c'est la, on va dire, l'émergence permanente, quelque part, de nouveaux outils, de nouvelles plateformes, de nouveaux jouets, quelque part, qui souvent sont d'ailleurs destinés à plutôt un jeune public, et du coup, j'imagine, remettent un peu les compteurs à zéro à chaque fois et entraînent des nouvelles dérives et donc de nouvelles problématiques pour les associatifs.
Oui, alors, en réalité, les problématiques ne sont pas tellement nouvelles, parce qu'en fait, fondamentalement,
on déplace juste
c'est
le
un peu toujours les mêmes, voilà. Heureusement d'ailleurs. À part quelques fois où il y a vraiment des nouveaux usages révolutionnaires, mais objectivement, il n'y en a pas 150 non plus. Globalement, c'est après des nouvelles formes.
Oui.
Ça prend des formes un peu différentes. Donc voilà, mais ça reste fondamentalement les mêmes usages et les mêmes outils. Après, c'est vrai que chaque génération d'ados va effectivement vouloir avoir un nouvel objet, un nouvel outil qui est différent des autres. Donc, il y a une nouvelle application tous les deux ans qui naît. Effectivement, et du coup, ceux d'avant n'y sont pas, mais les nouveaux y sont parce que c'est leur jouet, comme vous dites. Mais ça ne change pas complètement l'usage. Maintenant, c'est vrai que les plateformes comptent beaucoup sur les ados, finalement, pour leur donner très rapidement beaucoup de visibilité,
oui,
puisque c'est eux effectivement qui vont s'empresser de s'accaparer.
Oui, les early adopteurs, comme on dit.
Exactement, et qui effectivement sont un peu un public incontournable si on veut vraiment avoir une croissance rapide. Donc c'est vrai que les pauvres, ils sont un peu en fait victimes de ça.
Oui.
Parce qu'il va y avoir un investissement fait pour leur trouver un nouveau jouet. Là, on parle beaucoup de TikTok, qui est l'ancien Musical.ly, qui n'a rien d'extraordinaire, objectivement, mais qui a un bon mélange entre, effectivement, des vidéos, un réseau social, une forme de karaoké, et auquel les parents, typiquement, ne voient absolument pas le problème, parce qu'ils, oui, ne l'associent pas à leur représentation, à eux, de leur génération, du réseau social, qui reste encore quand même assez pour les parents Facebook. Donc, c'est vrai que ça ne ressemble pas. Donc, ils ne comprennent pas, parce qu'entre-temps, il y a eu Snapchat, mais que les parents d'aujourd'hui n'ont pas utilisé. Donc pour eux, le réseau social reste Facebook, ne ressemble, oui, pas à Snapchat. En revanche, TikTok ressemble plus à Snapchat. Donc on sait que... voilà. Donc c'est le fossé générationnel.
Ça peut créer des décalages de compréhension,
voilà,
et de prendre. Ça peut empêcher de prendre la mesure des enjeux et potentiellement des dangers qu'il y a derrière.
Complètement. C'est vrai que sur
derrière.
TikTok, on a bien vu que de la même façon que sur YouTube, il y a effectivement des contenus, encore une fois, d'images d'enfants qui sont complètement anodins, mais sur lesquels un certain nombre de prédateurs sexuels et pédophiles vont pouvoir trouver de l'intérêt pour eux, d'excitation, vont se transmettre, et que ça, les parents n'ont pas du tout, oui, imaginé que ça puisse exister et que ça puisse se faire. Donc voilà, typiquement des nouveaux usages qui paraissent très loisirs et sur lesquels, pas en dessous entre guillemets, alors que les enfants sont tout à fait au courant, mais les parents voilà, n'appréhendent pas les risques.
Bon, surtout ne désespérons pas, nos enfants justement auront sûrement un regard bien plus affûté que nous sur toutes ces problématiques, en tout cas on peut l'espérer. Merci à Clara Benyamin et Justine Atlan pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 Dream Beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise. Having fun in the sun or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.